Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mauni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Dernier jour du forum. Comment l'Afrique peut-elle profiter de son potentiel culturel? C'est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui. Nos invités du jour sont Madame Nebiye Salamata, panéliste du Burkina Faso, et Jocelyne, elle est panéliste du Togo, et Diaye Issago, journaliste culturelle et fondatrice de Mali Culture. Je suis Mariam Koulibaly, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Alors, le grand dialogue d'aujourd'hui, comme vous le savez, et nous sommes bien installés au niveau de l'hôtel Salam dans le cadre du forum de Bamako. Et la première question de ce grand dialogue, nous allons l'adresser à Madame Nebiye Salamata, qui nous vient du Salimata, qui nous vient du Burkina Faso. Alors, Madame Salimata, comment se porte la création et les industries culturelles en Afrique?
Merci beaucoup. Je pense que, sur toute l'Afrique, en prenant toute l'Afrique, je dirais que c'est un secteur très dynamique, un secteur est résolument tourné vers l'économie, parce que la culture est une composante de notre économie qu'on ne peut plus ignorer, même si c'est un peu plus ou moins le parent pauvre des politiques publiques, parce que je pense que les pouvoirs publics n'investissent pas massivement dans la culture, qui pourtant, à tout point de vue, est aussi une question de souveraineté pour le pays. Et normalement, pour promouvoir l'expansion de la culture, de notre culture avec toutes ses composantes, tous les arts qui composent la culture telle qu'on nous le définit, les arts du cinéma, les arts de la musique, tous les différents arts, je ne peux pas tous les citer, la littérature, la peinture, tout ce qui compose la culture, nos pays doivent regarder ça et très très profondément et s'y investir. C'est aussi important que la défense et la sécurité. Parce que la culture, tout le monde s'accorde à le dire aujourd'hui, c'est une arme, une formidable arme médiatique. Elle est l'aide des médias, elle le sait. Une formidable arme diplomatique, une formidable arme d'influence. Vous voyez, l'Afrique est sous influence d'autres cultures. Mais les gens y mettent beaucoup, beaucoup de ressources pour pouvoir peser sur l'Afrique, pour pouvoir peser sur le reste du monde. Et l'Afrique aussi devrait investir tout autant pour rayonner, pour irradier, pour produire, pour influencer, pour peser aussi sur la marche du monde, je vais dire. Tant qu'il n'y aura pas cet investissement massif dans le secteur culturel, et tant que le secteur culturel va rester et le domaine des subventions, le domaine de la coopération décentralisée, le domaine de l'aide au développement, on ne pourra rien faire. Mais je vous dis que dans certains pays africains, comme l'Égypte, c'est des grands pays qui ont des grands patrimoines culturels. Ils n'ont pas besoin d'aide extérieure pour préserver leur culture, pour préserver leur patrimoine culturel, pour financer les rénovations, les innovations, les nouvelles créations. Ils investissent parce que c'est des choix politiques. C'est des choix politiques, c'est des options politiques. Et un pays comme le Mali peut le faire. Parce que dans notre sous-région, de la région ouest africaine, par exemple, le Mali reste le pays dont l'histoire est connue de tous les enfants des autres pays. Je peux vous dire que je connais plus l'histoire du Mali, que celle du Burkina, parce que ici, je crois que la culture, même si c'est l'oral, les gens ont réussi à perpétuer beaucoup de choses de votre passé très très lointain, qui sont encore là et qu'on magnifie toujours, même si on n'est pas malien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la nouvelle génération peut investir là-dedans, peut investir de sorte qu'on puisse renouveler les choses, de sorte qu'on puisse améliorer les choses? Ce sont des questions qui me parlent.
Alors, docteur Afanglo Jocelyne, je parviens à le prononcer. Alors, est-ce que vous êtes du même avis que Salimata qui dit que les États devraient plus s'investir dans les productions culturelles en Afrique? Est-ce que c'est votre avis aussi?
Oui, merci beaucoup, Madame Mariam, pour l'invitation aussi. Tout à fait, elle a tout développé, elle a tout dit. Mais je suis d'avis avec elle parfaitement. Il faudrait qu'on puisse soutenir les artistes, investir davantage dans les industries culturelles.
Oui, donc. On devrait investir dans les industries culturelles, mais qu'en est-il de la consommation? Est-ce qu'en Afrique, les Africains consomment assez bien leur culture?
Oui, bon, je dirais que nous le consommons, mais pas assez grand niveau. Il est vrai que ces derniers temps, on remarque même que notre culture est délaissée au profit d'autres cultures. Donc, c'est également l'occasion pour réveiller les consciences, pour appeler vraiment, elle a bien cité maintenant, que la jeunesse doit être impliquée dans la consommation et autres pour que notre culture soit beaucoup plus valorisée. Quand nous prenons par exemple l'exemple de la Chine et autres, ils valorisent actuellement, vous allez même pour manger, ils utilisent toujours le riz. Mais chez nous quand même, tout à l'heure même vous avez vu avec les couverts et tout ça là. Donc je dirais que il faut vraiment un réveil de conscience.
Alors, Tia Yaïsako, vous êtes journaliste culturelle, fondatrice de Mali Culture. Quels sont les domaines culturels dans lesquels l'Afrique et notamment le Mali fait assez de production?
Alors, l'Afrique et le Mali s'illustrent bien dans les domaines où on va prendre de la musique. Déjà, on va être tous unanimes sur le fait que la musique africaine a de l'aura à travers le monde. Et surtout, contribue aussi à la richesse même de la production musicale du monde. On peut citer, dans un article, je disais il y a quelques jours, que quand dans certains pays, on ne peut citer qu'un artiste interplanétaire, en Afrique, on va en citer plusieurs artistes interplanétaires. On va penser à la maman qui a déjà commencé avec la world music, qui est Myriam Makeba. Myriam Makeba qui passe le relais à Angélique Kidjo. Angélique aujourd'hui qui passe le relais à ses frères et sœurs du Nigeria. Quand on retrouve en même temps cette même Angélique Kidjo dans la dernière production de Black Panther dans Wakanda, et on va retrouver en bande son beaucoup d'artistes ouest-africaines, dont Baba Mal, dont des artistes féminines du Mali, Oumou Sangaré aussi, qui va y participer au premier épisode de Black Panther et deuxième et troisième épisode de Black Panther. Donc quand on regarde cela, ça traduit bien évidemment que on a eu un parcours, une histoire musicale, ouest-africaine et même Afrique de manière globale très riche. La production devra s'intensifier parce que on l'a dit, les industries créatives et culturelles, la culture, l'ensemble des expressions traditionnelles, artisanales et culturelles des peuples. Donc ça veut dire que c'est la traduction de l'âme des peuples à travers des expressions véhiculées. Et quand cela est le cas, comme l'a fait la Chine en ayant un repli sur soi pour faire de sa culture, la culture asiatique qui aujourd'hui inonde. Et d'ailleurs en inondant, c'est à travers le cinéma, à travers la musique, à travers le karaté ou le judo, donc le sport qui est aussi un outil et par excellence est une des expressions culturelles quand on doit prendre le sport dans son essence traditionnelle. Donc la musique, pour être plus précise, le cinéma. Le cinéma, oui, aimé. Oui, parce qu'on a eu un très bon début avec la classe des Ouédrago, Slimane Cissé, Cheikh Oumar Sissoko, en Afrique, Saint Ben Ousmane, où on a vu une explosion d'auteurs de cinéma. cinéma d'auteur. C'est-à-dire c'est une spécificité de cinéma à travers le monde. Et la nouvelle vague, donc eux, ils arrivent, ils se mettent dans la nouvelle vague, ils deviennent les maîtres de la nouvelle vague. Ce qui nous donne des paysages cinématographiques, des imaginaires très riches, mais très poétiques. Donc ce qui, d'ailleurs, nous vaut tous ces prix pour le Burkina Faso, le Mali, etc. La nouvelle génération a bien pris conscience de cela. L'IATUS se met sur, oui, la subvention, mais plutôt dirigée vers la production qui, elle, devient économique. Parce que c'est quand on regarde, c'est après l'industrie de l'automobile, d'ailleurs on dit l'industrie de l'automobile, quand on parle des expressions culturelles, on va parler des industries. Donc l'industrie du cinéma, l'industrie du livre, l'industrie du théâtre, enfin de l'art de la scène, multisectorielle. Donc multisectorielle, la bonne nouvelle de cela est que c'est aussi des mannes de création d'emplois. Donc financer les artistes, les États devraient investir massivement dans les productions cinématographiques, enfin productions artistiques de manière globale, même dans la peinture. Et parce que quand on regarde les peintres, les plasticiens ivoiriens, maliens, aujourd'hui, c'est les plus grands plasticiens vendus à travers le monde. Donc, nos États devraient financer massivement la culture. Je m'aligne sur les propos de Madame Salimata.
Quand on voit les créations artistiques, souvent on se dit, est-ce que ces créations africaines ne sont-elles pas influencées par le monde extérieur? Par exemple, quand on voit dans le domaine musical et autres, est-ce qu'il n'y a pas une influence extérieure sur ces créations-là?
On ne peut pas dénier qu'il n'y a pas d'influence extérieure. Mais j'aimerais quand même souligner que, vous savez, quand une culture est forte, une culture qui est solide, une culture qui est bâtie sur un socle traditionnel lointain, on peut dire qu'elle va s'auto-suffire. Je vais vous donner des exemples concrets de cultures tout en étant perméables à des apports nouveaux. On va les reconnaître à mille lieues. Quelle que soit la partie du monde où vous serez, si vous écoutez la musique sénégalaise, vous saurez que ça, c'est le Sénégal. Vous écoutez la musique malienne, personne n'aura à vous dire la koura est là, le goni est là, le tam-tam, le balafon est là. Ça dit, c'est des marqueurs qui sont spécifiques à des zones de notre culture que personne ne peut nous enlever. Même si des Chinois, par exemple, arrive à jouer la koura, ça ne sera pas la même chose que Sidiki Diabaté, ça c'est clair. Donc je veux dire, ces marqueurs-là, il faut les protéger, il faut les labelliser, il faut se battre pour les imposer à travers le monde. Ça, l'Afrique peut le faire. Mais pour le faire, l'artiste seul ne peut pas porter ça. Derrière l'artiste, il doit exister un pays. Vous prenez la musique ivoirienne, allez-y en Côte d'Ivoire, il y a toutes sortes de musiques. Mais ils vont jouer massivement d'abord la musique ivoirienne. Moi, je viens souvent ici au Mali. Je n'ai jamais entendu une autre musique que la musique malienne. Jamais. Je n'entends que la musique malienne. C'est ça, je vous dis, quand votre culture est très forte, il y a des éléments de cette culture qui s'imposent à tout le monde. Aux enfants, aux adultes et aux étrangers qui vivent chez vous. Vous allez écouter la musique malienne comme vous voulez. Vous traversez un peu la frontière, vous arrivez au Sénégal, le Mbalax vous attend. Ça va être la musique sénégalaise, peut-être avec les mêmes instruments que au Mali et tout et tout. Mais les cultures qui ne se renouvellent pas aussi finissent par mourir. Mais il faut préserver l'essentiel. Ce qu'elle est en train de dire, même si nous avons des stars interplanétaires, Youssou N'Dour, Salif Keïta, Cheikh Tidiane Seck, des cinéastes, Idrissa Ouédraogo, les pionniers, Cheikh Oumar Sissoko, Samben Ousmane, toutes ces personnes, il faut qu'on les retrouve dans nos rues. Parce que c'est ça aussi qui perpétue la mémoire des grands artistes qui ont laissé des empreintes. Il y avait le couturier Alpha Di ici. Qui ne le connaît pas? il est dans une forme d'expression culturelle aussi qui fait sa place dans le monde. Aujourd'hui, j'ai entendu que des artistes de l'Afrique de l'Ouest sont partis au Brésil pour présenter la création en couture, en haute couture. Je crois que c'est une première dans le monde. Ils vont retrouver là-bas au Brésil d'autres formes de culture africaine qui vont forcément influencer peut-être les prochaines créations que nous allons voir à Abidjan, et Accra, et Bamako, Ouagadougou et tout. Mais je ne veux pas aussi qu'on regarde la culture seulement sur les aspects purement économiques. Nous avons la culture, l'aspect immatériel de nos cultures, nos us, nos coutumes. Hier, on l'a dit, ça demeure aussi des leviers qui devraient protéger nos créations. Il y a des... C'est pas moi qui l'ai dit, j'ai lu avant de venir. Il y a des choses que tout le monde ne peut pas faire. Vous ne pouvez pas vous improviser joueur de kora. Il faut aller à l'école d'un maître qui accepte vous prendre, vous initier dans le jeu de la kora, que vous le maîtrisez. Ça peut prendre des années. Un jeune qui veut apprendre, il faut qu'il ait un soutien. Parce que si vous voulez vous consacrer à la musique, aux arts de la culture, vous ne pouvez pas associer ça avec autre chose. Sinon, vous serez un amateur. Moi, je ne suis pas peintre. Mais si je me mets à la peinture, c'est juste pour mon plaisir. Ce n'est pas pour en vivre. Ce n'est pas pour influencer quelque chose. Mais un jeune qui veut faire de la peinture, il faut l'envoyer dans une académie de peinture. Je disais hier dans mon panel, la culture est une science. Vouloir en faire du folklore, c'est très dommage. Et c'est une arme diplomatique. C'est une arme politique. C'est une arme dissuasive contre les abus. Oui, et nous avons des personnes de notre société, de nos communautés, qui peuvent le dire parce qu'ils sont habilités, ils sont légitimes à le dire. Vous prenez, je vais parler du Mali, mais je suis du Burkina. Vous prenez les griots ici. C'est le personnage qui peut dire réellement la vérité à tout le monde sans blesser personne. Parce qu'il a appris à parler. La parole aussi est un art. N'importe qui ne peut pas parler n'importe où. Vous nous donnez la parole comme ça. Nous mesurons tout ce que nous sommes en train de dire parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Mais on veut aussi qu'ils sachent qu'on a des messages à passer. Et les messages à passer, c'est que nous regardions nos cultures, nous respections nos cultures, nous acceptions que nous venons de quelque part et que nous voulons aller quelque part. Et pour aller dans ce quelque part, on n'a pas besoin d'un repli sur soi. On peut s'ouvrir sans se saborder. Allez-y en Chine, au Japon, aux États-Unis. L'art africain est là partout, partout. Dans les couleurs, dans la façon de faire des gens. Si vous êtes un Africain culturellement posé, vous allez voir que les gens ont pris quelque chose de vous, mais ils ne vont jamais, 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 jamais le dire. C'est parce que nous, on a tendance à prendre les choses des autres et puis on est déçus, on ne fait que ça et puis on abandonne pour nous. On peut prendre chez les autres sans pour autant abandonner ce qu'on a. Voilà.
Chez les autres et ne pas abandonner ce qu'on a. C'est votre avis, docteur Afanglo?
Effectivement, il faut quand même qu'à un moment donné, qu'on puisse se faire valoriser, qu'on puisse reconnaître que ça là, c'est la culture togolaise, ça là, c'est la culture malienne, ça, c'est la culture sénégalaise, etc. Mais dès l'instant qu'on se confond ou bien même on pense que notre culture n'est pas la meilleure, parce que parfois, c'est l'impression que moi j'ai, en tout cas à notre niveau, c'est que la culture n'est pas soutenue. Donc les artistes, vous allez voir un artiste qui commence petit à petit, mais bon, qui s'arrête. Puisque elle a dit, il faut vivre, pour vivre uniquement que de la culture, il faudrait avoir quand même de soutien. Mais si vous n'avez pas de soutien, vous abandonnez. Donc... il faut vraiment que les gouvernants, qu'il y a une politique derrière même qui soutient, qui finance la culture.
Votre co-débattrice l'a dit, il faut voir la culture au-delà de l'aspect économique et d'y inclure nos us et coutumes. Est-ce que c'est votre avis également?
Oui, effectivement. Quand on parle de la culture, on se réfère à quoi? Nos us, nos traditions, nos mœurs, l'habillement, tout cela, ça fait partie de la culture. Donc, nous devons retourner à la base, en fait. Quand on pense que notre culture n'est pas meilleure, donc je suis désolée. Oui. Donc, voilà.
Diaye Issako, vous êtes journaliste culturelle. Qu'est-ce que la diplomatie culturelle?
Alors, la diplomatie culturelle est un outil de soft power. Cela veut dire quoi? Il y a trois dimensions de power. Il y a le soft power, le hard power et les skills power. Le soft power, c'est l'ensemble des outils internes à un pays sur lesquels un pays peut se positionner pour influencer le monde extérieur. Cela passe par la sécurité. La sécurité est un outil de soft power. L'économie est un outil de soft power. La culture est un outil de soft power. Par excellence. Et une fois qu'on a érigé et identifié ces outils-là, je vais prendre l'exemple sur certains des pays qui, par exemple, pour permettre de divulguer et de disséminer à travers le monde leur influence culturelle, parce que l'influence culturelle est influence diplomatique. Et donc, on va passer par quoi? Si on passe par la politique, on risque de crisper les nerfs de certaines personnes. Mais quand on passe par, et c'est là où c'est soft et hard power, parce que on va passer par un outil doux, mais plutôt qui a une puissance extraordinaire pour pouvoir convertir l'autre à venir vers toi. Et donc, des pays comme, je ne vais pas citer de nom de pays, mais tout le monde connaît ces pays-là, ont développé des outils d'influence à travers le monde, à travers la culture. Ça s'exprime, voilà, et les bourses d'études, ça s'exprime par les instituts culturels, par exemple. Les Allemands sont des chantres en ce domaine. Les Français sont aussi des chantres en ce domaine-là. Cela veut dire quoi? Quand on implante dans un pays un outil comme celui-ci, on permet à travers des sessions de formation, à travers le regard croisé entre artistes d'un monde et d'un autre monde pour consolider, et c'est en même temps des outils interculturels. Parce que ancrage, oui, je vais prendre l'exemple sur la lettre de Madou Ampateba qui a été citée hier par le ministre de la Culture, M. Andogoli Guindo. Amadou dit, dans sa lettre à la jeunesse africaine, c'est d'ailleurs son dernier écrit, à l'endroit des jeunes Africains, Amadou Ampateba bien sûr, il dit, ancrage, oui, mais soyez des arbres enracinés avec des feuillages ouverts, flamboyants, des feuillages flamboyants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ayez des racines, mais ayez aussi des antennes qui vous permettent d'être en relais avec les autres. Ce sont ces outils-là de diplomatie, d'influence, qui nous permettent de le faire. L'artiste est un... Pourquoi dit-on que l'artiste est un ambassadeur? L'artiste est un ambassadeur parce qu'il appartient à cet outil extraordinaire d'influence et de promotion des us, des mœurs et des expressions artistiques. J'ai adoré la partie où on est revenu sur l'essentiel même de la culture, qui est de préserver l'immatériel, parce qu'on ne peut pas promouvoir justement le matériel sans préserver l'immatériel. Il faut de l'ouverture, et quand les cultures sont fortes, l'a dit Madame Salimata et ma collègue qui vient du Togo aussi, quand on est ancré, on ne perd pas de sa valeur. On ne perd rien. Et on ne risque même pas de perdre. On n'a pas peur de perdre. Parce qu'on est enraciné dans quelque chose de tellement important que même si, comme Youssou N'Dour, Kumba Gaoulo Seck, John Balabo Seck, quand ils font leur musique, en appelant des jeunes Nigériens ou en appelant des jeunes Maliens, l'essence même du Sénégal va demeurer, qui est le balak. Pour ce qui concerne la musique, hein, j'ai vu en sous-jacence de la question, la musique par exemple nigériane. La musique nigériane aujourd'hui est arrivée à conquérir le monde sur deux musiques noires. Le rap, qui est en fait une réminiscence du jazz, du blues, des chants de coton et issus de l'esclavage, mais du high life, du high life qui a précédé l'afrobeat que... je vais oublier son nom. Fela Annie Kulapokuti va créer, mais que ses enfants vont reprendre et vont créer du new afrobeat. Que ce que nous vivons aujourd'hui avec les Davido, ils nous font danser moderne, mais ils nous font danser surtout le Ghana et le Mali, parce qu'il y a du tamani dans le high life. Il n'y a pas de high life sans le tamani. Ce rythme binaire qui est derrière le high life, c'est du tamani. Et le tamani, ça vient d'où ? Du Mali. Voilà.
Merci, Diaye Issako. Alors, comment les révolutions technologiques influencent le secteur culturel en Afrique ?
J'ai peur un peu de me répéter. Oui. J'ai dit, quand une culture est forte, les influences extérieures, elle peut être bombardée d'influences extérieures, elle va préserver son essence. Vous prenez l'intelligence artificielle aujourd'hui. On dit l'intelligence artificielle menace tout. On nous demande même de laisser reposer nos cerveaux. On a une question, on ne va plus réfléchir. On pose la question à l'intelligence artificielle. Elle va chercher et puis elle va nous prendre quelque chose de très digeste, de très bien écrit d'ailleurs. Mais, et ça c'est la dernière chose qui vient menacer nos cultures. Nos cultures sont menacées par nous-mêmes. Quand je dis nos cultures sont menacées par nous-mêmes, je parle des pouvoirs publics. Parce que parler de souveraineté, hurler à UE à Dia la souveraineté. Je vous dis que la souveraineté par excellence, c'est d'abord la culture. Si vous voyez des anciens chefs d'État, comme les chefs d'État ouest-africains des années 60, oui. Merci. Vous allez voir un trait, ils vont porter debout avec le pain tissé. Aujourd'hui, un pays comme le Burkina a réussi à promouvoir le pain tissé. Mais on a perdu, par exemple, nos tisserands. Quand nous étions enfants, moi en tout cas quand j'étais enfant, je ne parle pas des plus jeunes là, on pouvait les voir de temps en temps sous des arbres en train de tisser à la main. Moi j'ai connu cette période, mais aujourd'hui personne ne fait ça. On a des machines semi-industrielles qui font très bien ces tissus, qui sont plus durables. Mais je vous dis qu'il y a des personnes encore en Afrique aujourd'hui qui ne peuvent porter que le tissé main. Parce que c'est par conviction. Vous avez une ministre de la Culture ici, une ancienne ministre de la Culture, Madame Aminata Traoré. Si vous voyagez avec elle, vous allez vous cacher. Parce qu'elle vient, c'est l'Africaine. De la tête aux pieds. C'est pas. C'est la vérité. On se sent fier d'elle. Tout en elle est africain. Et les tissus, les designs, les parures. Bon, c'est vrai que ça coûte aussi aujourd'hui. Il faut avoir quand même les moyens pour le faire. Et pour faire l'Africain, là où l'Africaine, ça demande un investissement. Mais ça doit passer par là. C'est pour ça que les pouvoirs publics, pour protéger nos cultures, doivent faire en sorte que la culture soit accessible. Parce que de plus en plus, la culture est en train de devenir du luxe. On peut avoir les deux sans rien perdre. On peut avoir le luxe africain culturel. On peut avoir le bon marché culturel africain. Ça aussi, on l'a quand même. Quand vous allez dans nos marchés, vous pouvez trouver des tissus teints à la main par les femmes et déjà confectionnés par des tailleurs. On peut les acheter tout frais payés, bon, accessibles. Mais le bon produit africain, il est inaccessible même aux Africains. Or, quand nous partons sur le marché international, ça devient compliqué. Parce que là-bas, c'est des normes à respecter, c'est des designs à respecter. Et C'est pour ça, même dans le marché culturel, l'Afrique reste largement déficitaire par rapport aux autres contrées du monde. Les Chinois sont champions, les Européens sont champions, les États-Unis sont champions. Il y a tellement de choses en Afrique que nous n'avons pas réussi à innover. Parce que l'innovation en elle-même n'est pas de jeter l'ancien, mais c'est d'améliorer l'ancien, lui donner de nouvelles fonctionnalités, lui donner de nouvelles couleurs, sans perdre, si vous voulez, la graine initiale. Il faut qu'on innove, que nos poteries, on puisse savoir, ça c'est de la poterie africaine à la base. Vous prenez la poterie marocaine, et c'est leur marque déposée. On ne peut pas se tromper quand on voit la poterie marocaine. Quand on prend la poterie française, oui, c'est de la poterie, de la céramique, je ne sais pas. Il y a des régions du monde, ils ont labellisé ce qu'ils savent faire le mieux. Il faut que nous aussi, on le fasse. Pendant très longtemps, au Mali, qui parle d'indigo, qui parle de teinture, c'était ici. Mais aujourd'hui, même ici, on s'est laissé envahir par des productions industrielles qui ne font que copier les savoir-faire de nos ancêtres. Et ça, c'est un grave problème. Pourtant, c'est une source de revenus importante pour les femmes, pour les jeunes et même pour les personnes qui ne peuvent plus travailler parce qu'elles sont fatiguées. Protéger notre culture, c'est tout ça. C'est se battre contre une industrie envahissante, invasive, qui n'hésite pas à nous prendre ce qu'on a. Parce qu'eux, ils ne s'amusent pas avec nous, comme je l'ai dit.
Docteur Afanglo, vous avez l'impression que la culture, l'accès aux biens culturels devient un luxe aussi au Togo? Est-ce que vous avez accès aux tissus, aux pagnes, aux parures traditionnelles chez vous?
Oui, bien sûr. Nous avons accès aux... Bon, il y a les artistes qui travaillent là-dessus. Hein. Donc, ce n'est pas... Nous avons accès assez bien là. Sauf que pour les pagnes, par exemple, il faut confectionner ailleurs. Donc, ce serait bien, ce serait l'idéal, même si nous pouvons le faire chez nous. Vous voyez, non?
Des tissus traditionnels au Togo?
Oui. Bien sûr, oui, il y en a qu'on tisse.
Oui. Facile nous, d'accès, oui, à prix abordable.
Oui, oui. Chez nous, on l'appelle lokbo. Oui. Les lokbo qu'on tisse, les tisserands, ils le font. Mm-hmm. C'est facile d'accès. Mais quand même, si on subventionne ces artistes-là, je pense que ce serait encore plus accessible. Mais actuellement, comme je vous le disais, ces pagnes-là, mais, ne sont plus valorisés par la jeune génération. Mm-hmm. Donc, comment on va voir les jeunes vont porter, vous-même, quand vous portez, on vous voit bizarrement. Mm-hmm. Et donc, il faudrait, comme je l'ai dit au départ, il faudrait aussi un réveil de la conscience et surtout également les financer, avoir une politique qui accompagne ces artistes-là. Oui.
Alors, est-ce que la numérisation des tableaux et des anciens manuscrits constitue un acquis de cette révolution technologique?
Oui, enfin, aucune culture n'est statique. Toutes les cultures sont faites pour être un peu perméables, plutôt, pour être perméables, qu'on puisse en intégrer. Et chaque culture, on estime qu'à chaque 10-20 ans, une culture essentielle évolue. Parce qu'il y a des nouvelles technologies qui vont arriver ou des nouvelles pratiques face à ces cultures-là qui vont les rendre muables. Et une fois qu'on a travaillé sur la question d'industrialisation, parce que la question d'industrialisation pose la question justement de la technologie. Et oui, la technologie est en même temps une menace, mais quelque part, ça peut être aussi un atout. Donc, c'est aux peuples africains de regarder comment la nouvelle technologie est un atout. Et quand on voit un atout, mais regardez aussi aux menaces que cela peut engendrer. Une fois qu'on a travaillé sur les menaces, on décèle les atouts. Pour ce qui concerne des atouts, oui, la préservation par la numérisation des manuscrits, parce qu'on parle de manuscrits datant de du 14e siècle. Donc, le problème de conservation se posant, ces manuscrits ont été souvent écrits sur des parchemins ou des papiers hyper fragiles. Donc aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, donc sécheresse dans certaines des parties, et aussi l'humidification arrivant aussi par ce même phénomène de réchauffement climatique. Donc il est urgent aujourd'hui pour le Mali de préserver l'ensemble des manuscrits du 14e siècle. Pourquoi ? Parce que ces manuscrits, je pense qu'on a eu le temps d'en discuter sur le plateau, voilà. L'ensemble de ces manuscrits, c'est aussi l'ensemble des savoir-vivre de nos ancêtres. Bien que l'arabe ait été sollicité pour écrire ces manuscrits ont été écrits en langue arabe, mais dans la pensée africaine. Donc, préserver, numériser, c'est traduire aussi, et donc populariser et démocratiser ces manuscrits-là. En revanche, le monde va vite, hein, avec l'introduction de l'IA, où on n'a plus besoin de secrétaire, où on n'a plus besoin même de journaliste. C'est-à-dire, on n'a qu'à mettre le thème et la machine fait tout seul son travail. Mais ce qui est une bonne nouvelle pour l'homme, ça veut dire que l'humain qui a créé cette machine aussi performante que l'homme peut se challenger à se mettre toujours au-dessus dans la pensée, dans la production intellectuelle, à se mettre au-dessus de cette machine-là. Et donc, ça parle de développement de potentiel, mais en même temps, ces avancées technologiques mettent à nu aussi l'ensemble de nos mémoires, parce que quand on regarde le Bogolan aujourd'hui, le monde va tellement vite, il faut juste mettre une photo d'un pagne Bogolan sur Internet. Demain, vous trouvez la production dans un magasin à travers le monde. C'est là où on ne peut rien faire sans les décideurs, sans ce plaidoyer politique qui est que ce sont les politiques qui vont donner, en fait, jouer l'orchestration. C'est les chefs d'orchestre de la préservation de ces mémoires-là. Et ça passe par labellisation, donc labelliser l'ensemble de nos savoirs et de nos gastronomies. Parce que quand tu labellises, par exemple, la tchéké, c'est ce qui est arrivé. On a labellisé, la Côte d'Ivoire a labellisé la tchéké. Ben, certains ont sorti la tchéké disant couscous de manioc. Mon Dieu, pour vous dire combien le monde va vite et que même quand on veut préserver, c'est difficile de préserver. Alors, et ce sont les politiques qui peuvent jouer ce rôle-là.
Alors, Madame Salimata, aujourd'hui, on entend parler du retour de certains biens culturels de l'Afrique. Ces biens culturels qui ont été toutefois exposés dans des musées européens et un peu partout dans le monde. Est-ce que l'Afrique est assez outillée pour accueillir ? L'Afrique a assez d'infrastructures pour bien protéger ces biens culturels-là ?
Merci. Vous savez, moi, quand j'entends l'Afrique n'a pas les moyens techniques, les moyens intellectuels, les Africains, ils se laissent insulter. Ceux qui gardent nos biens culturels, soit ils sont venus les prendre de force ici, une bonne partie, mais il ne faut pas oublier que l'autre partie a été vandalisée par nous-mêmes. C'est pour ça que je disais, nous sommes aussi des fossoyeurs de nos cultures. On a vu des personnes en Afrique qui ont volé des masques sacrés pour les vendre aux Européens. Après, nos États doivent encore déployer beaucoup de ressources, beaucoup d'argent, beaucoup de plaidoyer politique pour faire revenir ces objets volés par nous-mêmes et vendus pour des raisons mercantiles. Maintenant, la marche de l'histoire, c'est notre narratif de l'histoire qui fait de nous des victimes. Il y a des pays comme l'Égypte dont on a pillé les ressources, l'Égypte antique. Mais l'Égypte a montré des muscles pour faire revenir des momies, pour faire revenir les trésors des tombes et tout et tout. Et les Africains, on a eu des grands Africains qui se sont battus pour ça. Les Cheikh Anta Diop, ils en ont parlé, même si à l'époque, et ça n'avait pas l'audition qu'on aurait pu avoir aujourd'hui. Vous savez, au Burkina, il y a l'avocat Maître Passeré. Parce que ceux qui peuvent demander le retour de ces biens culturels, c'est eux qui les connaissent. C'est eux qui connaissent leurs valeurs. Ils connaissent leur symbolique, ils connaissent leur portée. Les masques funéraires qui ont disparu, les masques sacrés qui ont disparu, un jeune d'aujourd'hui, il ne sait pas ce que c'est. Peut-être qu'il va voir comme ça, c'est un masque. Mais il apprend ce masque à tout rôle de faire ça, ça, ça. Et il se retrouve avec un marchand d'illusions. Il vole ça quand même et puis il vend. Tout ça, ça ramène à la culture, à l'éducation culturelle que nous n'avons pas. Notre rapport à la culture est réduit à l'argent. J'ai créé, c'est pour vendre. J'ai fait de la peinture, j'ai peint une scène du village, je dessine une scène du village, je crée un cinéma, et ça peut être un cinéma engagé, mais c'est aussi un cinéma qui exploite de façon, et comment dirais-je, je vais qualifier ça, de façon inappropriée nos cultures. Ça va marcher parce que les gens, ils aiment l'exotisme, ils aiment les histoires à dormir debout. C'est africain, ça les amuse, ça ne leur apporte absolument rien et ça ne nous apporte rien non plus. On a eu des grands films. Vous prenez le film de Abdramane Sissoko, Sarawinia, qui montre quand même que les femmes, par exemple, ont participé à la défense des territoires africains. Et puis, en même temps, il y a tout un paquet de choses culturelles qui arrivent dans ce cinéma. Il y a beaucoup de messages. Mais il faut être un bon spectateur culturel pour les comprendre, pour les associer et comprendre le fil de l'histoire. On va regarder Black Panther. Tout le monde aime ça. Mais tu demandes à 10 Africains dans la rue tout de suite, l'histoire de Black Panther est inspirée par quoi? Ils ne sauraient pas te dire. Ils voient seulement les effets fantastiques, les effets spéciaux. C'est beau, c'est puissant, ça magnifie l'Afrique. Le cinéma doit porter ça. Mais figurez-vous que Black Panther n'a pas été fait en Afrique. Ça a été fait aux États-Unis. Ça demande énormément de moyens. En Afrique de l'Ouest, je crois que c'est le Nigeria avec Nollywood qui essaie vraiment d'avoir une vraie industrie cinématographique. Et c'est ça que j'ai dit. Le Nigeria, sa culture lui suffit. Vous allez là-bas aussi, à ce qu'on me dit. Ils ne jouent que leur musique, ils ne regardent que leurs films, ils peuvent se passer des autres. Mais quand ils partent à l'extérieur, ils se déploient, ils déploient leur culture, ils l'imposent. Même si on ne les adopte pas, ils vont forcer le respect. C'est la même chose que notre musique ouest-africaine, sahélienne ici, Salif Keita.
Victor Démé, par exemple.
Victor Démé. Malheureusement, qui n'a pas eu la notoriété ou le succès planétaire voulu, mais ses pairs artistes reconnaissent en lui un virtuose. Et ça, ça n'a pas de prix pour un pays comme le Burkina que Victor Démé soit magnifié par ses pairs africains.
C'est une excellente chose. À la fin de l'émission, nous allons donner la parole à Dr Jocelyne. C'était passionnant, vraiment. Nous allons donner la parole à Dr Jocelyne. Docteur, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que l'Afrique puisse profiter de ses productions culturelles et artistiques?
Pour que l'Afrique puisse profiter, je pense qu'il faudrait accompagner avec... il faudrait avoir une bonne politique, quand l'État est derrière, je pense que ça peut aboutir. Donc, tout ce que nous avons dit, il suffit d'un soutien. Si on dit oui, allez même dans nos musées. Nos musées sont des exemples vivants. Vous n'allez pas voir nos cultures, les poteries, tout ça là. Bon, c'est que c'est laissé à l'abandon. Donc, il faut vraiment que... il y a un soutien, il y a une volonté surtout à la base et puis un accompagnement, je pense que que tu vas faire.
Oui, merci. On dit que nous n'avons pas les infrastructures pour recevoir nos œuvres. Elle l'a bien dit, Madame la Ministre. Les œuvres sont parties d'où? Là où les œuvres sont parties, ils ont dû créer les conditions que nous avons pour préserver nos œuvres. Donc ça règle de facto la question de l'infrastructure pour recevoir nos œuvres. Merci. C'est parti d'ici et ça doit revenir ici.
Et c'est ce que met fin au débat d'aujourd'hui dont le thème portait sur comment l'Afrique peut-elle profiter de son potentiel culturel. Nos invités étaient Madame Nebiye Salimata, panéliste venue du Burkina Faso, Jocelyne Afanglo, comme d'habitude, je n'arrive pas à bien prononcer son nom. Alors, elle est panéliste du Togo. La troisième invitée était Dieye Issako, journaliste culturelle au Mali. Je suis Mariam Koulibaly. J'ai eu le plaisir de vous présenter cette émission réalisée par Imrana Kilomaïga. La partie technique était gérée par Gagny Kanté et Mamadou Ouattara. Merci et à demain, Inch'Allah.